Dans le cas d'un individu comme celui-là, c'est un nom dans un fichier auquel on n'a pas vraiment le temps de s'intéresser parce qu'il y a probablement plusieurs centaines de personnes en France qui sont considérées comme étant dangereuses et qui, elles, font l'objet d'une surveillance particulière qui peut se faire par écoute téléphonique, qui peut se faire parfois par surveillance statique, par filature, par surveillance physique, mais ça dans des cas extrêmes parce que ça consomme énormément de personnel. Pour une bonne filature, dans un milieu urbain, il faut compter au moins 15 fonctionnaires de police ou du renseignement. Donc on ne peut pas multiplier ces opérations à l'infini parce que ça consommerait tout le personnel de la police française. C'est un des problèmes de la surveillance. Tant que ces gens n'ont pas commis de délits clairs ou de crimes, évidemment, qui permettent de les poursuivre en justice et de les emprisonner, on est relativement limité dans la capacité d'action des services.
Quels sont les critères qui font qu'on décide de suivre quelqu'un ou de simplement inscrire son nom ?
La dangerosité. Et la dangerosité, c'est un phénomène qui va s'évaluer en fonction de différents critères. Est-ce que la personne est connue ? Est-ce qu'elle a un passé ? Est-ce qu'on sait qu'elle a suivi un entraînement militaire ? Est-ce qu'on sait qu'elle a été mêlée à des combats ? Apparemment, cette personne n'avait jamais été mêlée à des combats en Pakistan ou en Afghanistan, ou en tout cas, on ne le sait pas. Et il semblerait que cet individu avait le minimum de liens possibles avec d'autres acteurs potentiels de la sphère djihadiste en France ou à l'étranger. Donc rien qui ait permis de le repérer au-delà du fait qu'on savait que c'était rendu en Afghanistan. On va monter en puissance à partir du moment où le nom de quelqu'un va revenir régulièrement à plusieurs reprises, où il va être en contact avec des gens qui sont considérés comme dangereux, par exemple avec d'anciens détenus dans des affaires de terroristes, ou en contact avec des opérateurs terroristes connus à l'étranger. Là, évidemment, on va passer immédiatement à une puissance supérieure et on va mettre beaucoup plus de moyens.
Aujourd'hui, en France, combien de personnes sont suivies réellement par la police pour risque terroriste ?
Les fichiers de gens qui sont considérés comme pouvant être liés à l'islamisme radical concernent plusieurs milliers de personnes, les gens dangereux, plusieurs centaines de personnes, et les gens qui font l'objet d'une surveillance particulière et à peu près permanente, quelques dizaines de personnes.
Et les voyages vers quel pays sont surveillés pour ensuite dire que des personnes peuvent être à risque terroriste ?
Bien entendu, l'Afghanistan et le Pakistan, c'est la Somalie, c'est le Yémen, mais c'est assez difficile à contrôler réellement, parce que prenez le cas par exemple de la Somalie, où on sait qu'un certain nombre de terroristes européens se sont entraînés et s'entraînent pour le moment. Il n'y a pas de liaison aérienne ou par bateau régulière avec la Somalie. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont aller au Kenya, et du Kenya, ils vont essayer de passer en Somalie par la route. Le Kenya est une destination de vacances très privée. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se rendent au Kenya chaque année pour des safaris, pour aller bronzer sur une plage. Il est impossible, évidemment, de contrôler toutes ces personnes. Si quelqu'un est déjà suspect, on peut penser qu'il va se rendre au Kenya pour passer en Somalie. Mais s'il n'a pas encore été repéré, il va passer totalement inaperçu. D'autant plus qu'ils peuvent aussi, évidemment, partir de pays étrangers. Vous pouvez tout à fait imaginer quelqu'un qui va aller prendre un Français, qui va aller prendre ses vacances en Égypte, et puis qui, en Égypte, va prendre un avion pour le Pakistan.
Après la tuerie de Toulouse, peut-on toujours dire que le suivi du terrorisme est efficace en France ?
Il est utile puisqu'il a permis jusqu'à présent d'arrêter des dizaines et des dizaines de djihadistes potentiels en France. Soit des gens qui étaient impliqués dans le recrutement de djihadistes, soit des gens qui étaient impliqués dans des cellules logistiques qui récoltaient de l'argent pour le djihad, soit des gens qui préparaient des opérations terroristes sur le sol français ou ailleurs et qu'on a arrêté avant qu'ils puissent passer à l'acte. Donc oui, il est utile, mais ce n'est pas la panacée universelle. Il faut être conscient du fait que la France est quand même au maximum de ses possibilités, comme beaucoup d'autres pays européens, en matière de lutte antiterroriste, mais qu'on ne peut pas, ce n'est pas une garantie absolue.